Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien en cette semaine très très chaude qui nous attend et qui a commencé. Alors, après avoir navigué pendant plusieurs semaines, voire mois, vous demanderez à Marie ce que c'était mes sujets de réflexion, pour savoir ce dont j'allais parler ce matin, faire le tri, enlever des choses, en mettre d'autres, revenir en arrière et recommencer à zéro. J'ai essayé de rassembler un peu et de synthétiser toutes ces idées autour d'un thème. Mais avant d'en venir à ce thème, nous allons écouter une partie du texte de Job 38 que Lynn va nous lire.
Alors, du sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Mets ta ceinture comme un brave. Je vais te questionner et tu m'enseigneras. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le, puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu donc? Qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur? Dans quoi les socles de ces colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale, la pierre d'angle? Quand les étoiles du matin éclataient unanimes dans des chants d'allégresse et que tous les anges du Dieu poussaient des cris de joie? Tu dois connaître tout cela, puisque tu étais déjà né et que tes jours sont si nombreux. Peux-tu nouer les cordes des Pléiades? Ou desserrer les cordages d'Orion? Fais-tu paraître les constellations en leur temps? Conduis-tu la grande ours et ses étoiles secondaires? Sais-tu par quelle loi le ciel est gouverné? Est-ce toi qui donnes à la terre l'ordre qui la régit? Te suffit-il d'ordonner aux nuages pour que des trombes d'eau se déversent sur toi? Les éclairs partent-ils à ton commandement te disant « Nous voici » Qui a planté la sagesse au cœur de l'homme et le discernement en son esprit? Qui a la compétence pour compter les nuages et qui peut incliner les amphores du ciel pour agréger en glèbe la poussière et pour souder les mottes de la terre?
Merci, Lynn. Donc le thème que j'aimerais aborder ce matin est Dieu est. Alors déjà, merci Camille pour la première partie. Parce qu'on a déjà eu beaucoup de descriptions de ce que Dieu est. Plein de « il est » dans les prières et dans le texte. Je ne vais pas vous mettre au défi de tous les rappeler, parce que ça serait long, et je pense qu'on pourrait y rester des heures. Du coup, le texte que nous avons lu juste avant sera une sorte de fil rouge, ou du moins la toile de fond, à laquelle nous pourrons revenir au fur et à mesure de la méditation et des différents sujets abordés. Donc si vous pouvez le garder en tête, retenez-le, et de toute façon j'y reviendrai au fur et à mesure. Et pour commencer, je vais commencer par quelque chose qui me semble une évidence peut-être, enfin, pour certains plus que pour d'autres, mais pour moi ça pose les bases pour la suite. Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Nous sommes dimanche, nous sommes réunis pour lui, donc oui. Mais du coup, est-ce que vous avez déjà douté ou douté encore de l'existence de Dieu? Ça m'était arrivé et j'ai eu besoin de passer par là pour croire. Et cela peut encore m'arriver lorsque ma foi vacille. Mais plus je sais à quoi me référer pour ne pas laisser le doute grandir et prendre une place qu'il ne devrait pas avoir. Même si, en tant que personne à l'esprit plutôt cartésien, quelque part, je considère le doute comme utile à la construction d'une réflexion, et en particulier sur le sujet de Dieu existe. Cela permet pour moi de voir aussi comment le Saint-Esprit agit et convainc les cœurs. Du coup, Dieu est, parce que Dieu existe. Ça peut paraître une évidence, mais si Dieu n'existe pas, autant au sens physique que spirituel, Dieu n'est pas. Je vous ai déjà perdu. Ça fait que commencer. J'aimerais présenter quelques arguments et éléments qui peuvent nous permettre de fortifier notre foi. Alors, éléments scientifiques pour la plupart, prenez pas peur, qui vont en faveur de l'existence de Dieu. Et pourquoi est-ce le Dieu de la Bible présenté dans l'Ancien Testament? Donc, tout ce que je vais dire sur le sujet est principalement tiré de ce livre, La science est pour Dieu, de nouveaux arguments scientifiques pour la foi. Alors, ces arguments, pour commencer, sont dits cosmologiques. Donc déjà, qu'est-ce que la cosmologie? Alors, c'est une branche de la physique qui étudie l'univers dans sa globalité. Elle cherche en particulier à comprendre l'histoire de notre univers. Et derrière cette histoire, il y a trois questions existentielles qui nous concernent tous. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Et où allons-nous? Mais avant de continuer, j'aimerais m'attarder sur le mot cosmologie et sur son étymologie. Le mot cosmologie, il vient de deux mots grecs. Le premier, c'est cosmos, qui signifie univers. Et le deuxième, c'est logos, qui signifie parole, raison, plan. Ce terme cosmologie, il est apparu apparemment au XVIIIe siècle d'un philosophe et mathématicien allemand, Christian Wolff, qui a reconnu que l'ordre régissant le mouvement des astres ne peut être que le fait d'un créateur, d'une raison suprême ayant établi les lois de la nature selon un plan bien précis. En fait, le mot cosmologie, il ne fait que paraphraser ce que l'apôtre Jean dit, apparemment lui très en avance sur son temps, dans son introduction d'Évangile. Au commencement, était celui qui est la parole de Dieu, le Logos. Tout, dont le cosmos, a été créé par lui. Donc maintenant, on a abordé la partie, on va dire, étymologique du mot. Maintenant, on va rentrer dans des arguments un peu plus ardus. La relativité générale. Vous êtes tous bien assis, vous pouvez pas tomber plus bas, c'est bon. Ça vous parle, Einstein, etc. Alors, je vais essayer de simplifier le plus possible pour essayer de rendre clair et d'effleurer un peu ce que c'est ce pan-là de la physique. Donc, la relativité générale décrit le comportement physique du développement et du mouvement des planètes et autres astres dans l'univers, dans l'univers et dans le temps. Donc, dans l'espace et dans le temps. Pour donner une image un peu plus simplifiée, imaginez un gigantesque ballon. Imaginez que c'est le ballon et que la surface du ballon, c'est l'univers. La relativité générale dit que, au cours du temps, la taille du ballon augmente. C'est ce qu'on appelle l'expansion, cette augmentation de la taille du ballon. Et ça a été observé pour la première fois par un scientifique, Hubble, dans les années 20. Et du coup, si on prend l'inverse, si on passe le film à l'envers, sa taille diminue. Elle diminue, diminue encore et encore et encore et encore, jusqu'à devenir un seul point. Et c'est cet instant précis de début qui a été surnommé par les scientifiques le Big Bang. Je ne vais pas rentrer dans les théories plus loin, c'est juste un terme pour déterminer le début. Cet instant, il marque le début de toutes les réalités physiques que nous connaissons. L'espace, le temps, la matière, etc. Et toutes les lois qui les relient, elles sont apparues mystérieusement. Et là s'arrête la théorie physique. Et la conclusion philosophique ou spirituelle est évidente. L'univers n'est pas éternel. Il doit donc être l'effet d'une cause immatérielle qui surpasse l'espace et le temps. Cette conclusion est l'essence même de l'argument en faveur de l'existence de Dieu. Elle trouve son écho dans le premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel, le cosmos et la terre. L'astrophysicien Robert Jostrow a remarqué cette convergence entre la science et le texte biblique et dit « À présent, nous voyons comment les données scientifiques soutiennent la vision biblique de l'origine du monde. Les détails diffèrent, mais les éléments essentiels sont les mêmes. La chaîne des événements menant à l'homme a commencé soudainement à un instant précis. » En lisant ça, on peut tous se dire « Waouh, c'est un chrétien convaincu !» Pas du tout. Ce scientifique était agnostique et ça rend encore sa conclusion plus pertinente vis-à-vis de l'existence de Dieu. Mais force est de constater qu'il a fallu attendre l'aube du XXe siècle pour que la science parvienne à la même conclusion que le prologue de la Genèse écrit 3000 ans plus tôt. Le physicien, toujours Robert Jostrow, en dit à ce sujet, les scientifiques ont gravi la montagne de l'ignorance, ils s'apprêtent à conquérir le plus haut sommet, et lorsqu'ils se hissent sur le dernier rocher, ils sont accueillis par une bande de théologiens assis là depuis des siècles. D'autres arguments, au fur et à mesure des avancées scientifiques, viennent soutenir l'existence du Créateur. Je vais en citer brièvement un. C'est un argument qu'on appelle le fine-tuning en anglais, ou réglage fin. Il se divise en trois parties. Donc, un réglage fin et minutieux est l'effet d'une cause dite intelligente. Les lois de la physique sont minutieusement réglées, donc les lois de la physique sont l'effet d'une cause intelligente, Dieu. Pour faire une analogie, prenez ce vieil autoradio. Pour choisir la fréquence de votre radio favorite, il faut régler minutieusement le tuner de la radio avec une grande dextérité. De manière similaire, pour que notre univers puisse abriter la vie, il faut que les lois physiques soient minutieusement réglées. Pour donner un ordre d'idée, un scientifique dit « La probabilité pour que la vie soit le fruit du hasard est comparable à la probabilité qu'une tornade crée un Boeing 747 entièrement opérationnel en traversant une décharge. » Si vous voulez plus de détails sur tous ces arguments, qui vont un peu plus loin aussi dans la réflexion, je vous invite à lire le livre que j'ai cité plus haut. Et maintenant que nous avons effleuré la surface de quelques arguments en faveur de l'existence de Dieu, je vais aborder quelques arguments qui vont en faveur de l'existence du Dieu biblique. Je vais les parcourir assez rapidement pour passer ensuite à ma seconde partie. Donc la première chose, ces arguments en faveur du Dieu biblique sont des vérités dites humainement inatteignables. Alors déjà, on va définir qu'est-ce qu'une vérité inatteignable. Une vérité dite inatteignable, c'est une vérité qui, à l'époque où elle est énoncée, les connaissances scientifiques ou philosophiques nécessaires pour l'atteindre, par la raison et la réflexion humaine, n'existent pas. Elle se révèle exacte longtemps après. Elle est en opposition avec les croyances des peuples voisins, qui sont plus avancés et plus nombreux. Et le peuple qui la détient est peu avancé, lui, peu puissant et peu nombreux. Il y a plus de chances qu'on découvre quelque chose si on est nombreux pour le découvrir. Dans notre cas, la présence d'une telle vérité constitue une énigme, car celui qui la détient n'a pu l'atteindre ni par ses propres moyens, ni par l'intermédiaire de ses voisins. Et c'est globalement le cas du peuple israélite. Ils étaient peu nombreux, comparé à ces grandes nations de l'époque, peu puissant et sans terre fixe, et peu avancé. Je vais citer quelques-unes du coup de ces vérités dites inatteignables. On l'a vu juste avant, donc l'univers a été créé à partir de rien et à un début absolu. C'est répété en Genèse 1, au verset 1 et 2, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le monde n'a pas été créé d'un coup, toujours en Genèse 1. Le soleil et la lune ne sont que des luminaires. Encore en Genèse 1, du verset 14 à 16, où Dieu créa le ciel, le soleil et la lune. Le peuple hébreu se distinguait de tous les autres peuples sur ce point-là à l'époque. Il n'identifiait le soleil et la lune à aucune divinité ou puissance supérieure. Il savait que ce n'était que des luminaires. Et tous les documents de l'Antiquité connus, il y a uniquement la Bible qui n'a pas placé le soleil et la lune sur un piédestal. Et c'est des siècles plus tard que les premières observations de la lune ont été faites au télescope. Les Hébreux avaient donc eu raison plusieurs dizaines de siècles avant tout le monde, avant de disposer des savoirs et instruments nécessaires pour le prouver. Il y en a d'autres. L'univers aura une fin et le temps n'est pas cyclique. En Ésaïe 51, verset 6. Levez les yeux au ciel, baissez-les sur la terre, car comme une fumée, le ciel s'évanouira et comme un vêtement, la terre s'usera. La nature et les éléments n'abritent aucune divinité. Comme on peut le voir dans le psaume 113 ou en 1 Corinthiens 8. L'homme dans la création, l'homme est arrivé en dernier, dans Genèse 1, verset 26. Et l'homme est issu de la matière et de la terre, en Genèse 2. Tous les hommes sont issus d'une même souche, etc. Et il y a bien d'autres arguments sur ce sujet-là. Donc voilà quelques-uns des arguments présentés sommairement. Tout cela pour essayer d'apporter un peu plus d'éléments pour dire que oui, le Dieu de la Bible existe. Mais tous ces arguments scientifiques, humains, sont là pour tenter de le comprendre. Et on pourrait soutenir que tous les arguments les plus puissants possibles, cela resterait insuffisant pour certains. Car au final, c'est Dieu qui se révèle aux hommes par son Saint-Esprit. Par Jésus, c'est lui qui peut convaincre le cœur. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le, puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu donc? Qui a tendu sur lui le cordeau d'arpenteur? Dans quoi les socles de ces colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale, la pierre d'angle, quand les étoiles du matin éclataient, unanimes, dans des chants d'allégresse et que tous les anges de Dieu poussaient des cris de joie? Donc vu que Dieu existe, ça y est, on peut dire que Dieu est. Mais du coup, qui est Dieu? Est-ce seulement un Dieu figé dans le temps, dans l'espace, une statue qui a juste déclenché les choses et qui ne change pas? Pour ça, j'aimerais nous plonger dans un passage où Dieu est et est présent de façon tangible. Il se trouve dans Exode, où Dieu se présente au peuple hébreu. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son du cor et voyait les éclairs qui enveloppaient la montagne. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur et se tinrent à distance. Par la suite, ce sont Moïse et les responsables du peuple qui verront Dieu. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds s'étendait comme une plateforme de saphir aussi pure que les fonds du ciel. L'Éternel n'étendit pas la main sur ces notables des Israélites. Ils contemplèrent Dieu et puis ils mangèrent et burent. Et ensuite, Moïse, lui, va rentrer dans la nuée, dans la présence quasi pleine de l'Éternel. Donc à ce moment-là, le peuple, il est comme ça, parce qu'il voit la puissance de Dieu, celui qui est. Et pourtant, ils vont pas attendre très longtemps, alors tout est relatif, hein, 40 jours, où il va se produire une des premières fautes du peuple hébreu dans son ensemble. Elle est en Exode 32, au verset 1. Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fabrique-nous des dieux qui marchent à notre tête, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Et la première idole du peuple hébreu prit la forme du veau d'or. Ça part mal, hein? 40 jours auparavant, ils avaient déjà reçu une partie des commandements de Dieu, dont un qui disait explicitement en Exode 20, verset 22. C'est celui-là. L'Éternel dit à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu comme je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne m'associerez aucune divinité, vous ne vous fabriquerez aucune idole en argent ou en or. » Ça partait un peu mal pour le peuple. Mais du coup, qui est Dieu? Comment Dieu va-t-il réagir à ça? Sentence obligatoire et l'accomplissement de ce qu'il a dit? La suite du texte d'Exode nous indique la réaction de Dieu. L'Éternel ajouta, « Je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi un autre grand peuple. » Et après un long plaidoyer de Moïse, finalement, l'Éternel renonce. Alors, l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il l'avait menacé. Super, le peuple a gagné, Dieu a changé d'avis. Donc apparemment, Dieu est, et Dieu peut changer d'avis. Ça me dirige vers là, qui est Dieu? Donc oui, Dieu, à plusieurs reprises, dans la Bible, revient sur l'exécution de son jugement. Comme c'est le cas avec le peuple hébreu, mais aussi avec Ninive et l'intervention de Jonas. Dieu vit ce qu'il faisait, il vit qu'il renonçait à leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Dans les différents exemples cités jusque-là, Dieu revient sur sa décision suite à un échange avec un des siens. Comme ce fut le cas avec Moïse, ou un changement de la part du peuple, suite à un rappel à l'ordre par un de ses prophètes, comme les Ninivites. Le point commun dans ces différents moments de la Bible est l'échange entre Dieu et son peuple, soit par un de ses prophètes, soit par son intervention directe. Dans le désert, le peuple avait vu Dieu directement. Les Ninivites, eux, ne l'ont pas vu, mais ont suivi l'enseignement et le rappel à l'ordre de Jonas. Mais du coup, peut-on dire que parce que Dieu change d'avis, Dieu change au final? Il n'est peut-être plus le même qu'il était avant sa décision de changer d'avis. Quelque part, si nous avons une lecture un peu simpliste et selon moi biaisée, du texte, Dieu s'adapte à son peuple sur le moment. Je pense que c'est un raccourci qu'on peut tous faire à un moment de notre vie. Mettre Dieu à notre image plus que nous à son image. Parce qu'au final, Dieu accepte son peuple, il est patient et plein d'amour et de bonté, donc venez comme vous êtes, comme chez McDo, etc. Je crois que c'est ce genre de raisonnement qui a pu amener le peuple israélite, à sa sortie d'Égypte, à se construire un veau d'or. Dieu était là, présent, sur la montagne, mais pas comme le peuple le voulait, pas comme ils auraient aimé l'adorer. Ils se sont donc pervertis et se sont construits une idole. Et cette histoire, elle se répète tout au long de la Bible dans l'Ancien Testament. Avec Salomon, par exemple. qui construit des autels à des idoles issues des cultures de ses différentes épouses. De sorte que son cœur n'appartient plus sans réserve à l'Éternel, son Dieu. Ou par la suite, dans toute l'histoire des rois d'Israël, où le culte et la vie du peuple choisi par Dieu étaient mélangés à la culture des peuples environnants. Nous retrouvons aussi des cas, des exemples un peu plus indirects dans le Nouveau Testament. Par exemple, lorsque Paul écrit sa lettre aux différentes églises, dont celle de Corinthe, dont la culture et le mode de pensée local pouvaient déformer l'enseignement de Paul et le message de l'Évangile. Donc, à Corinthe, il y avait certes, dans la culture ambiante et la philosophie de l'époque, certains pensaient que le corps et l'esprit pouvaient agir de façon distincte. Et Paul les rappelle à l'ordre en disant « Ne savez-vous pas ceci ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Je pense qu'il y a souvent une confusion et des raccourcis rapides entre le fait de dire que Dieu change d'avis et que Dieu peut changer. Et cela arrive encore de nos jours. Récemment, je suis tombé sur une petite vidéo qui tourne pas mal sur TikTok, Instagram, etc., aux États-Unis surtout. Elle date de 2021, cette vidéo. Je vais pas vous la diffuser, je vais juste vous la lire. Cette vidéo, elle a pour titre le Sparkle Creed en anglais, ou le Credo scintillant en français. Je vais vous lire un passage de ce credo. Je tiens à préciser que c'est pas ce que je crois du tout, et que ça peut choquer, et j'en suis très conscient que les choses qui m'ont été dites peuvent choquer. Donc je vais vous le lire. Je vais l'afficher aussi en même temps. Je crois au Dieu non-binaire, dont les pronoms sont au pluriel. Je crois en Jésus-Christ, leur enfant, qui portait une fabuleuse tunique et avait deux papas, et voyait tout le monde comme des enfants de Dieu. Je crois en l'esprit arc-en-ciel, qui brise notre image d'une seule lumière blanche et la réfracte en un arc-en-ciel d'une magnifique diversité. Je crois en l'Église des saints de tous les jours aussi nombreux, créatifs, et je crois en l'appel lancé à chacun de nous que l'amour est l'amour. Alors bien-aimés, aimons-nous. Je crois, Dieu glorieux, aide mon incrédulité. C'est très loin du credo que nous pouvons connaître ou des credos que nous pouvons connaître. Et je pense que cette tentation de penser que Dieu évolue avec notre temps, change, s'adapte à son peuple, de vouloir faire Dieu un peu plus à notre image, qui répond à nos besoins du moment, est une tentation que nous pouvons tous avoir en tant qu'individus au cours de notre vie. Oui, Dieu change d'avis à plusieurs reprises en n'appliquant pas à l'instant donné son jugement. Parce que Dieu est un Dieu relationnel et à l'écoute de ceux qu'il aime. Et qui se conduisent selon ses commandements. Mais non, Dieu ne change pas. Alors déjà, parce que c'est marqué dans la Bible à plein de reprises, assez clairement. Malachie, je ne sais pas comment vous le prononcez, 3 verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. » En Jacques 1, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut, ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Ou en ombre, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Dieu ne peut pas changer d'avis, parce que Dieu était, est et sera, tout en même temps. En psaume 90, avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi tu es Dieu. Et il est dit clairement à propos de Jésus-Christ, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et nous l'avons déjà cité aussi en Jean 1, au commencement était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Dire que Dieu change, c'est dire que Dieu était différent de ce qu'il était avant. C'est-à-dire qu'à un instant donné, il change. Pour prendre une image, lorsque vous avez changé de coupe de cheveux et que votre mari ne le remarque pas, ça arrive souvent dans un sens plus que dans l'autre, vous avez pris rendez-vous à une date et à une heure précise chez le coiffeur. Et en sortant, vous êtes changé. C'est donc dire que Dieu change, c'est appliquer la notion du temps qui passe à Dieu. Alors que c'est lui-même qui a créé le temps. Pour nous. En Genèse 1, il appela la lumière, jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le premier jour. Dire que Dieu change parce qu'on a l'impression que Dieu peut changer d'avis est une façon de faire rentrer Dieu dans notre compréhension humaine et limitée. Mais Dieu est au-dessus de ça. Il est le même de toute éternité. Il est le Créateur, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et cela tout en même temps. Donc comment pouvons-nous dire qu'il change? Pour en revenir à notre texte du début, « Mets ta ceinture comme un brave, je vais te questionner et tu m'enseigneras. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? Déclare-le, puisque ta science est si profonde. » Qui sommes-nous pour définir Dieu? Seulement lui peut se définir. Et il dévoile qui il est à travers sa parole. En Exode 3, alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Voici, tu diras aux Israélites, « Je suis m'a envoyé vers vous. » C'est là mon nom pour l'éternité, c'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Et toujours dans le livre d'Exode, Dieu se présente à Moïse. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « Je suis l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, patient, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, ainsi de suite. » Ça fait une belle liste, et on en a eu tout à l'heure aussi, une liste, comme dans le chant qu'on a chanté, « Qui donc dans le ciel ?» où il y a une petite liste, « Tu es Adonai Jiré, tu es... » Adonai Shalom. Donc oui, Dieu existe. Dieu ne change pas. Dieu est. En conclusion, je rajouterai que normalement, lorsqu'on met l'adjectif bon après le verbe être, quelconque adjectif après le verbe être, c'est pour définir, caractériser quelqu'un ou quelque chose. Par rapport à un référentiel que l'on a. Il est bon au foot. Il est gentil. Ce paysage est beau. La cuisine de mon conjoint ou de ma conjointe est bonne. Toujours. C'est rarement discutable. Mais lorsqu'on met Dieu devant le verbe être, alors ça prend une autre dimension. Il est le référentiel qui nous permet de définir le reste. Et non l'inverse, car il ne change pas. Dieu est bon. Dieu est amour. C'est lui la définition de l'amour. Et cette définition est complète et totale par le sacrifice de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour finir, j'aimerais vous laisser 3 choses. D'abord, lorsque vous doutez, contemplez la création, attardez-vous sur sa beauté, son fonctionnement, et revenez au texte de Job. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? La seconde, c'est un petit exercice dans votre lecture personnelle. Je vous invite à essayer de noter lorsque Dieu est décrit, sa personne, son caractère. Vous verrez que Dieu a de multiples facettes. Mais c'est toujours lui et lui seul qui les définit, et nous n'en sommes que des témoins. Et la dernière, c'est le fait que Dieu ne change pas, est un message d'espérance. Quand tu es fatigué, abattu, découragé, Dieu ne change pas. Ses promesses, pour l'Église, pour ta vie, sont toujours valables aujourd'hui. Elles n'ont pas changé et ne changeront pas. Seigneur, merci pour qui tu es. Aide-nous à mieux appréhender toute l'immensité de qui tu es. Que chaque jour, nous puissions constater ta grandeur au travers de ta création. Fortifie notre foi et que nous puissions être témoins et dire que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen.